VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara nomme un nouveau gouvernement à un an de la présidentielle.
En Guinée, le président Alpha Condé annonce de larges consultations sur la Constitution, alors que l'opposition le soupçonne de vouloir briguer un troisième mandat.
Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto doit être jugé demain par un tribunal militaire.
L'Afrique du Sud a renforcé la sécurité hier après les attaques xénophobes qui ont fait 7 morts dans le pays.
Le pape François est au Mozambique pour marteler son appel à la paix.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé hier un nouveau gouvernement sans grand changement, dominé par sa formation politique et marqué par la création d'un ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à un an de la présidentielle. Bagassi Koura.
La nouvelle équipe comprend 41 ministres contre 36 dans le précédent et 7 secrétaires d'État contre 5. Le général Vagondo Diomandé, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, devient ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Adama Koulibaly devient le grand argentier. Il remplace Adama Kone, nommé ministre auprès de la présidence chargé des affaires économiques et financières. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture pendant une dizaine d'années, quitte son poste. Il est remplacé par Kobena Kwasi Adjumani, auparavant ministre des Ressources animales et halieutiques. Ce remaniement intervient en plein débat sur la nouvelle commission électorale censée organiser l'élection présidentielle de 2020. Ce scrutin s'annonce tendu 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
Côte d'Ivoire toujours, le procureur d'Abidjan, Richard Adou, a annoncé lors d'une conférence de presse hier que ses services allaient désormais réprimer plus sévèrement les dérives sur l'Internet et les réseaux sociaux. Il a menacé les administrateurs et modérateurs de poursuites. Cet avertissement intervient à la suite de la mort du chanteur Didier Arafat avec la diffusion d'images de son corps après son accident, puis exhumé après la profanation de son corps.
En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé mercredi hier le lancement prochain de larges consultations portant notamment sur la Constitution. L'opposition lui attribue la volonté de vouloir modifier la loi fondamentale afin de pouvoir se représenter en 2020. Monsieur Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent, 2 maximum en Guinée, mais il n'a pas jusqu'à présent annoncé de modification de la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2020 à la fin de son 2e mandat qui s'achèvera en octobre.
Au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, doit être jugé vendredi par un tribunal militaire. Il est accusé d'insurrection et d'hostilité contre la patrie, des accusations pouvant entraîner la peine de mort. Le point avec Ekia Badou.
Maurice Kamto est poursuivi pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. Il risque la peine de mort même si elle n'est plus appliquée dans ce pays. Plusieurs dizaines de ses alliés politiques et partisans devront comparaître en même temps que lui demain, vendredi. Ancien ministre délégué à la justice, M. Kamto, 65 ans, a été arrêté fin janvier avec plus de 150 partisans à la suite d'une marche lancée par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC conteste les résultats de présidentielle d'octobre 2018 qui ont donné Paul Biya vainqueur d'un 7e mandat. En mars, les États-Unis ont déclaré qu'il serait sage de libérer M. Kamto. L'Union européenne avait aussi parlé de procédures disproportionnées à l'encontre des opposants. Longtemps silencieuse, la France ancienne puissance coloniale est finalement sortie de son mutisme à la fin mai pour réclamer la libération des opposants. De son côté, l'ONG Human Rights Watch dénonce une initiative politiquement motivée visant à juguler la dissidence.
L'Afrique du Sud a renforcé la sécurité hier après des attaques xénophobes qui ont fait 7 morts dans la région de Johannesburg et Pretoria et déclenché des représailles entre des commerçants sud-africains dans les villes du Nigeria. Les précisions de John Linden.
Le calme est revenu hier à Johannesburg sous haute surveillance policière après 3 jours de violence contre les étrangers. Au moins 7 personnes ont été tuées et près de 300 arrêtés. Des dizaines de magasins ont été détruits. Cette flambée de violence a suscité colère dans plusieurs pays africains. Au Nigeria, des appels au boycott des enseignes sud-africaines se sont multipliés. Le géant sud-africain des télécommunications MTN a annoncé la fermeture temporaire de toutes ses agences dans 3 villes du Nigeria. Abuja a également décidé de boycotter le Forum économique mondial Afrique qui s'est ouvert mercredi au Cap. En Zambie, 1 millier d'étudiants ont manifesté devant l'ambassade sud-africaine à Lusaka. Le président zambien Edgar Lungu a appelé Pretoria à mettre fin au carnage. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a condamné toute forme de violence alimentée par la haine. Le Botswana a quant à lui appelé ses concitoyens sur place à faire preuve de la plus grande prudence.
Le pape François a été accueilli par des milliers de fidèles enthousiastes hier soir au Mozambique, première étape de sa tournée africaine qui le conduira aussi à Madagascar. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Sur le tarmac de l'aéroport international de Maputo, le pape François a été accueilli par le président mozambicain Philippe Nyusi. De nombreux fidèles qui scandaient « Vive notre pape François » s'étaient massés à l'aéroport tentant d'apercevoir le Saint-Père avant qu'il ne parte pour le centre-ville. C'est un moment très spécial. Être ici est un grand honneur, a lancé Katharina Simbine, une Mozambicaine de 29 ans. J'espère que cette visite nous apportera une vraie paix, nourrie de son côté Arnaldo Menezes, un étudiant de 25 ans. La visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne intervient un mois après la signature d'un accord entre le gouvernement. Le pape se rendra vendredi à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, et doit conclure sa deuxième tournée sur le continent africain, dans l'île Maurice, où il est attendu lundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'ouragan Dorian, qui a durement frappé les Bahamas, se dirige maintenant vers les côtes américaines, a été relevé en catégorie 3 avec des vents à 185 km/h, ont annoncé mercredi les services météo américains. Dorian pourrait frapper la Caroline du Nord ou la Caroline du Sud d'ici à la fin de la semaine, après s'être éloigné de la Floride sans y avoir touché terre ni causé de dégâts majeurs. En revanche, l'ouragan a fait au moins 20 morts aux Bahamas. Jean-Roger Bion.
Ce bilan reste très provisoire dans l'attente de l'avancée des équipes de secours au sol pour déterminer les conséquences précises de l'ouragan qui a touché terre dimanche dans le nord des Bahamas. Dorian a frappé les Bahamas en catégorie 5, s'inscrivant parmi les ouragans les plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU a déclaré qu'environ 70 000 personnes dans l'archipel avaient besoin de denrées alimentaires, d'un abri et d'aide médicale. Il est à craindre que certaines localités aient été entièrement détruites, submergées ou emportées par l'eau, a dit Mark Lowcock lors d'une conférence téléphonique depuis les Bahamas, ajoutant qu'il était compliqué de localiser et de joindre les habitants des zones touchées. Ici aux États-Unis, l'ouragan pourrait frapper la Caroline du Nord ou la Caroline du Sud d'ici à la fin de la semaine. Il s'est donc éloigné de la Floride sans y avoir touché terre ni causé de dégâts majeurs. « Nous avons été chanceux en Floride », a déclaré hier le président Donald Trump à la Maison-Blanche. « Si nous pouvions maintenant être chanceux en Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud », a-t-il ajouté. M. Trump a précisé que les États-Unis allaient fournir de l'aide aux Bahamas en envoyant vivres et matériel qui était initialement prévu pour les victimes de Dorian en Floride.
En Grande-Bretagne, les députés ont rejeté hier soir la motion du Premier ministre conservateur Boris Johnson qui appelait à des élections législatives anticipées le 15 octobre, juste après le vote du Parlement en faveur d'un report du Brexit prévu le 31 octobre. La motion gouvernementale n'a obtenu que 298 voix, soit moins que la majorité des deux tiers de la Chambre des communes nécessaires pour être adoptée. Les élus de l'opposition travailliste s'étant abstenus. Il s'agit du troisième revers cinglant pour Boris Johnson en 24 heures.
En Iran, plutôt l'Iran a annoncé hier une nouvelle réduction de ses engagements nucléaires en faisant sauter toute limite à la recherche et au développement dans ce domaine, et ce, après avoir conclu à l'échec temporaire d'une médiation française pour amorcer un dialogue entre Téhéran et Washington. Les États-Unis avaient douché les espoirs de voir cette initiative aboutir rapidement en excluant toute dérogation à des sanctions afin de faciliter l'octroi d'une ligne de crédit à l'Iran. La Minute Éco, Nanit Talani.
MTN Nigeria ferme tous les magasins et centres de services du pays jusqu'à nouvel ordre après des attaques anti-sud-africaines contre ses installations dans trois villes. MTN Nigeria craint pour la sécurité de ses clients et de son personnel. Ces installations ont été attaquées à titre de représailles contre les émeutes xénophobes en Afrique du Sud. Le Nigeria est le plus gros marché de MTN avec plus de 58 millions d'utilisateurs et représente un tiers du bénéfice principal du groupe. Au Kenya, l'activité du secteur privé a chuté le mois dernier à son plus bas niveau à cause des problèmes de trésorerie dus en partie à des arriérés de factures en provenance des ministères pour des biens et services qui leur sont fournis. L'indice directeur des achats est tombé à 52,9, en baisse par rapport à 54,1 en juillet. Pour terminer cette minute éco, le déficit commercial du Maroc a augmenté de 4,3% pour s'établir à 11,5 milliards d'euros au cours des 7 premiers mois de cette année par rapport à l'an dernier. Les importations d'énergie, y compris le gaz et le pétrole, ont diminué de 2,1%. Les envois de fonds des Marocains résidant à l'étranger ont chuté de 1%, tandis que les investissements directs étrangers ont diminué de 17,3% à 985 320 000 euros.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le tour préliminaire des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 a commencé sur le continent.
À suivre ce soir, Seychelles, Rwanda, Tchad, Soudan et Somalie, Zimbabwe. Hier, le Burundi et la Tanzanie se sont neutralisés 1-1 à Bujumbura, 0-0 entre l'Éthiopie et le Lesotho. L'Érythrée s'est inclinée à domicile devant la Namibie 1-2, 1-1 entre le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale. Djibouti s'est imposé à domicile 2-1 devant l'Eswatini, signant ainsi son premier succès en qualification d'un mondial. C'est aussi le deuxième succès en match officiel pour Djibouti en 12 ans. La dernière fois que le pays a remporté un match de compétition, c'était face au Soudan du Sud. Comme l'avait promis la FIFA, ces matchs ont été diffusés en direct sur son site web et sa chaîne YouTube.
De nouveaux adversaires pour la Zambie et l'Afrique du Sud en match amicaux.
Le match qui devait opposer la Zambie à l'Afrique du Sud dans cette trêve internationale a été annulé. En cause, les actes de xénophobie perpétrés par des Sud-Africains à l'encontre d'étrangers africains dans la nation arc-en-ciel. Dans un communiqué, la Zambie a annoncé qu'elle jouera finalement contre la Namibie à Windhoek le 9 septembre, ajoutant que le match contre les Bafana Bafana sera reprogrammé lors de la prochaine trêve internationale en octobre. De son côté, l'Afrique du Sud a aussi annoncé avoir trouvé un accord avec Madagascar pour la tenue d'un match amical le 7 septembre au Orlando Stadium.
Des ultras de l'Inter assurent que les cris de singes ne sont pas racistes.
Un groupe de supporters ultras de l'Inter Milan a écrit une lettre à Romelu Lukaku, attaquant belge d'origine congolaise, pour lui assurer que les cris de singes ne sont pas racistes, mais plutôt un moyen de distraire les adversaires pour qu'ils ne marquent pas. Dimanche à Cagliari, des cris de singes ont retenti au moment où Lukaku s'apprêtait à frapper un pénalty pour l'Inter. Il a marqué pour donner l'avantage à son équipe 2-1 et ses cris parfaitement audibles à la télévision italienne On continue quelques secondes.
Aucune équipe africaine au deuxième tour du mondial de basket.
La Tunisie, seul espoir du continent, a été désillusionnée par Porto Rico qui l'a défaite en 64-67. Troisième défaite de suite, 63-80 pour la Côte d'Ivoire, déjà éliminée face à la Pologne. L'Angola a sauvé l'honneur en gagnant son dernier match à 84-81 face aux Philippines. Pareil pour le Nigeria, vainqueur de la Corée du Sud 108-66. Le Sénégal joue son dernier match aujourd'hui face au Canada. Désormais, tous les cinq représentants africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Tunisie et le Nigeria, sont éliminés.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, depuis dimanche dernier, il y a eu de violentes attaques contre les migrants africains. Même si le calme est revenu à Johannesburg, quadrillé par les forces de l'ordre, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines de commerces tenus par des migrants africains ont été pillés et incendiés. Selon les autorités, il y a eu près de 300 arrestations. Kadiatou Traoré a joint Diko Yerhia, vice-président du conseil de base des Maliens à Johannesburg.
Ça fait 3 jours maintenant, surtout à Johannesburg et puis dans les environs de Johannesburg, on voit des émeutes des Sud-Africains noirs qui s'attaquent à des étrangers africains dans la majorité. Ils brûlent les shops, les boutiques et ils cassent les véhicules, ils font des barricades, ils demandent aux étrangers de quitter chez eux. Parce qu'ici, la majorité des Africains qui sont là, c'est des Mozambicains, des Zimbabwéens, des Nigériens. Et puis, il y a aussi des pays asiatiques comme les Bangladesh et puis les Pakistanais. On a aussi les Somaliens et puis les Éthiopiens. Donc, il y a eu de la calmie.
Comment la calmie est-elle revenue?
Le calme est venu. Bon, il y a le gouvernement est sorti. Le ministre de la Sécurité a renforcé la situation, la sécurité. Ils ont même demandé à l'armée de les aider pour assister. C'était un peu pour amener la calme. Quoi. Mais souvent, c'est des gens qui sortent la nuit et puis ils mettent feu dans les boutiques et puis ils brûlent tout. Quoi. Et puis ils font des barricades. Quand on voit que c'est des étrangers seulement, ils sont capables, ils attaquent même les véhicules. Quoi. C'est surtout à Pretoria que ça s'est aggravé et à Johannesburg. C'est le centre même de Johannesburg. Oui. On a une communauté malienne qui est là, mais qui n'est pas si importante. Mais quand même, on a eu la boutique de 2 Maliens qui ont été vandalisés. Donc, c'est tout ce qu'on a signalé aux côtés de Maliens.
Vous résidez là-bas depuis longtemps. Pourquoi ces phénomènes se répètent régulièrement depuis 2008?
Oui, ça nous surprend vraiment parce que ça se passe après chaque 3 ans. Donc, on est un peu surpris. Bon, disons, selon les gens, s'il y a même des politiciens en dessous, c'est un phénomène vraiment qui souvent, ça nous dépasse un peu, quoi. C'est vraiment des politiciens qui sont à la base. C'est un truc qui est bien préparé, mais on n'est pas oublié aussi qu'il y a les criminels qui profitent de ça, de cette xénophobie ou bien afrophobie. Ailleurs, des criminels aussi s'élèvent en dessous pour vandaliser et casser tout. C'est quand même très triste parce que les Zimbabwéens, les Mozambicains, les Sud-Africains, à peu près c'est la même famille, y compris les Africains aussi. Ils s'attaquent beaucoup plus aux Africains qu'aux Asiatiques ou bien aux Européens. Lorsque vous connaissez tout ce que l'Afrique a fait pour que ces gens-là aient aujourd'hui tout ce qu'ils ont aujourd'hui.
C'était Diko Yerhia, vice-président du conseil de base des Maliens à Johannesburg. Et au Nigeria, vive réaction à ces attaques en Afrique du Sud, tandis qu'Abuja exige dans un communiqué une fin immédiate aux attaques xénophobes. Certains groupes de citoyens nigérians ont déjà commencé à s'en prendre aux Sud-Africains vivant au Nigeria. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La tension monte entre les deux géants du continent suite aux attaques xénophobes contre les Nigérians vivant en Afrique du Sud. Le Nigeria prend très au sérieux les attaques contre ses citoyens et a rappelé son ambassadeur à Pretoria. Sur place, les réactions sont unanimes. Awal Moussa Rafsanjani est un activiste.
Oui.
Nous condamnons ce qui se passe en Afrique du Sud parce que cela est inacceptable. C'est une grosse violation des droits des Nigériens et d'autres Africains qui sont tués en Afrique du Sud. Malheureusement, ce sont des Africains noirs et même qui tuent leurs frères africains.
La sécurité a été renforcée ce mercredi au Nigeria suite aux attaques de représailles contre les entreprises sud-africaines dans le pays. La situation est particulièrement tendue à Lagos, la capitale économique, où le supermarché sud-africain Shoprite a été vandalisé par des jeunes Nigériens en colère. Une colère perceptible dans les rues de la capitale Abuja.
Nous avions beaucoup contribué à leur indépendance. Mais comment peuvent-ils nous traiter de la sorte? Et personne ne détient le monopole de la violence.
Je suis vraiment triste parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Les Sud-Africains vivent librement chez nous. Par contre, eux, ils ne veulent pas nous laisser vivre en paix dans leur pays. Cela est très mauvais. Donc, ils doivent changer pour donner la chance à la paix.
MTN, le géant des télécommunications sud-africain, a confirmé des attaques contre ses installations à Lagos, Ibadan et Uyo, dans le sud et le sud-ouest du pays. Des précautions ont été prises pour éviter de telles situations à Abuja, après des appels au boycott et à la violence pour protester contre les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Des renforts de police sont postés autour des centres commerciaux sud-africains dans la capitale fédérale. Le gouvernement tente d'apaiser la tension en rassurant sa population. Godfrey Onyema, ministre nigérien des Affaires étrangères.
The two security forces, South African and Nigerian,
les deux forces de sécurité d'Afrique du Sud et du Nigeria peuvent avoir des arrangements pour permettre une coopération sur place en Afrique du Sud pour éviter la répétition de tels événements.
Même si les deux pays collaborent dans bien des domaines, la rivalité et la méfiance sont très fortes. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy a publié récemment son classement annuel des meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Seules 15 universités africaines figurent dans le classement. Sur le continent, l'Afrique du Sud reste en tête. Quels sont les obstacles en enseignement de qualité en Afrique? Le financement de la recherche dans les universités? Comment adapter l'enseignement supérieur aux réalités du marché de l'emploi? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Burundi, la commission d'enquête de l'ONU sur ce pays fait état d'un climat de peur dans cette nation d'Afrique centrale à moins d'un an des élections générales de 2020. Dans un rapport qui sera présenté le 17 septembre devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cette commission décrit comment des autorités locales burundaises et des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, intimident la population burundaise. John Linden a joint à Genève Doudou Diène, président de cette commission d'enquête sur le Burundi.
Il y a un climat de peur parce que c'est un contexte préélectoral et nous savons que l'histoire du Burundi confirme que les violations les plus graves des droits de l'homme sont liées à ça. Et ce que nous avons déjà documenté dans notre rapport précédent, c'est la persistance des violations des droits de l'homme et toutes les informations que nous avons recueillies, et nous avons fait des enquêtes depuis maintenant des semaines et des mois, indiquent que ces violations-là continuent, persistent. Ce que nous voulons mesurer, c'est est-ce qu'il va y avoir une aggravation en cause du contexte électoral.
Vous parlez de la persistance d'une violation des droits de l'homme au Burundi, mais l'ONU n'est pas autorisée à faire des enquêtes là-bas. Comment vous procédez?
Nous procédons d'une manière classique, la méthode utilisée est de recueillir l'information à toutes les sources les plus crédibles possibles et les recouper. Alors nous les recueillons auprès de qui? D'abord, les contacts électroniques et autres avec le peuple burundais sur place. Deuxièmement, avec la diaspora, utiliser le mot burundais, c'est-à-dire le mot classique, tous les Burundais qui sont à l'extérieur, organisés en ONG, en association, etc., et qui, eux, sont en lien direct avec le pays, leur famille, leurs relations, qui sont informés. Nous savons aussi toutes les informations que peuvent nous donner les partenaires du Burundi, c'est-à-dire à la fois les partenaires bilatéraux, même parce qu'ils peuvent fournir des informations objectives, mais les ONG internationales, comme Amnesty, qui font des enquêtes et qui ont aussi des contacts dans le pays, qui publient des rapports réguliers, et enfin les médias.
Le gouvernement burundais pourrait vous répondre que c'est un acharnement, il y a mieux à faire ailleurs, non?
Non, ils l'ont dit. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons trois mandats fondamentaux que nous remplissons. Un, c'est de documenter d'une manière objective et rigoureuse et précise les violations des droits de l'homme. Nous l'avons fait dans nos deux rapports précédents, nous allons continuer à le faire. La deuxième, c'est d'analyser si ces violations-là constituent des crimes contre l'humanité. Troisièmement, nous devons identifier les responsabilités de ces violations des droits de l'homme et enfin formuler des recommandations.
Ça fait des années que l'ONU fait des rapports sur les droits de l'homme et après, quel résultat? Qu'est-ce que vous prenez comme action?
Je vous dirais que la question, vous devriez la poser au Burundi. Posez-la aux organisations non gouvernementales burundaises, à l'intérieur ou à l'extérieur. Eux, ils savent que l'analyse que nous faisons, l'identification des responsabilités et autres, donne un tableau extrêmement précis de la situation. Demandez aux pays membres des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, des États-Unis, aux pays africains et autres. Ils vous diront que nos rapports leur servent d'information pour élaborer non seulement leur stratégie et leur rapport avec le Burundi, mais également en ce qui concerne les droits de l'homme en général. Notre rapport est un rapport absolument crédible. La transformation finale maintenant ne dépend pas de la commission d'enquête.
Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, joint à Genève.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En France, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé des mesures pour lutter contre la violence domestique après une série d'assassinats de femmes qui ont provoqué l'indignation. Depuis le début de l'année, plus de 100 femmes ont été tuées par leurs conjoints, partenaires ou anciens partenaires. La France n'a pas le monopole de la violence domestique. C'est un problème mondial que beaucoup choisissent d'ignorer. Nanik Talani.
D'après les chiffres publiés par le gouvernement, en France, une femme est tuée par son partenaire ou son ancien partenaire tous les 3 jours. Parfois, des femmes sont tuées parce qu'elles restent avec un homme violent. Beaucoup sont tuées même si elles partent ou signalent aux autorités les menaces dont elles sont victimes. C'est le cas de Julie Duhib, mère de 2 enfants, assassinée en mars dernier par son ancien partenaire. Son père, Lucien Duhib, témoigne.
Elle a porté plainte, comme je l'ai dit plusieurs fois, 5-6 fois. J'ai porté plainte pour mon menace de mort, 5-6 fois. On nous a écoutés, c'est vrai, mais on ne nous a pas écoutés non plus. On n'a pas su pourquoi, comment.
Cette année, Julie Duhib a été la 30e victime de violences domestiques en France. Après elle, 71 autres femmes ont été tuées. Ce bilan macabre a suscité l'indignation du public et des demandes d'action. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi que le gouvernement a créé un fonds pour des logements d'urgence aux victimes de ces violences domestiques.
Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants.
D'autres mesures comprennent des programmes d'éducation pour les familles dysfonctionnelles et la police s'occupe des plaintes ainsi que des sanctions pour les agresseurs.
Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint.
La violence domestique est malheureusement une pratique courante dans le monde. D'après les Nations Unies, près de 30 000 femmes ont été tuées par leurs partenaires intimes en 2017, principalement à cause d'un manque de protection pour les femmes maltraitées.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.